Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Retour vers le futur. Voilà comment cette saison 2008-2009 pourrait s'appeler. Lyon a dominé le foot français pendant 7 ans. 7 titres de suite du jamais vu dans notre championnat. Pour les plus jeunes qui nous écoutent, un peu comme le PSG aujourd'hui, personne ne se posait sérieusement la question de l'identité du champion en début de saison. Retour vers le futur donc, car l'hégémonie lyonnaise est terminée. Et comme 10 ans plus tôt, quand Marseillais et Bordelais s'étaient déjà disputés le titre de champion lors de la dernière journée, la donne est presque la même.
C'est un final de rêve, un final à suspense qui nous attend ce soir, puisque nous jouons pour le titre de champion de France.
Grâce à une fin de saison tonitruante, les Girondins ont leur destin en main. Bordeaux possède 3 points d'avance sur l'OM et une avance d'un but au goal average. Il suffit d'un match nul aux hommes de Laurent Blanc sur la pelouse de Caen pour être sacré.
Je sens que ce sera un match couperet, une sorte de finale vraiment. Mais en revanche, qu'on sent aussi, c'est un grand contraste entre les deux équipes. D'abord, on va parler de Bordeaux. Et curieusement, on sent de la décontraction. En tout cas, on a voulu pas changer les habitudes, pas trop se mettre de pression finalement.
Décontractés les Bordelais, décontractés les Marseillais, eux sont obligés de l'être. Dans le même temps, les hommes d'Éric Guéretz affrontent Rennes à domicile. Il faut gagner donc et espérer une défaite des Girondins en Normandie.
Évidemment que Marseille y croit encore, Eric, en ce scénario absolument incroyable. Jamais dans l'histoire de la première division, un club ayant l'équivalent d'une victoire de retard à l'entame de la dernière journée n'a réussi à accrocher le titre en fin de saison. Ce serait donc historique. Certes, ils n'ont pas leur destin entre leurs pieds, ils le savent, les joueurs marseillais, mais ça ne les empêche pas de rêver encore pendant 90 minutes.
Pour revenir sur le dernier titre de champion de Bordeaux dans le canal Football Classique, aujourd'hui avec nous, des invités qui sont comme le bon vin, ils se bonifient avec les années. David Berger, et là on vous a entendu, ouais. David, vous étiez à Caen pour commenter ce Caen Bordeaux.
Eh oui, pour commenter le titre de Bordeaux, et effectivement, bon voilà, on avait une oreille attentive vers ce qui se passait du côté du Vélodrome, mais c'est génial de pouvoir vivre des dernières journées de championnat avec du suspense à tous les étages.
Geoffroy Garrettier aussi est avec nous, vous étiez où, Geoffroy? Caen, Marseille, chez vous?
Non, j'étais chez moi.
Devant Canal.
Multiplex, bien sûr.
On va les entendre, les jingles de ce multiplex. Et Nicolas Touriol, qui avait beaucoup commenté Bordeaux cette année-là, vous n'étiez pas encore à Canal, Nico?
Non, pas encore, dans le groupe Radio France, mais j'étais aussi au stade Michel Dornano pour la victoire des Girondins et le titre derrière.
Vous étiez déjà fait pote avec David?
Moi, je le connaissais, lui, il ne me disait pas bonjour.
Mais... je ne le connaissais pas encore.
Bonjour à vous trois. Messieurs, on va dérouler le fil de cette soirée. Première mi-temps, que ce soit entre Caen et Bordeaux d'un côté et Marseille et Rennes de l'autre, assez insipide, on est d'accord, vous en souvenez?
Oui. Insipide, je ne sais pas trop, mais...
Il ne se passe pas grand-chose.
Oui, il ne se passe pas grand-chose, mais entre Caen et Bordeaux, on le rappelle, donc Caen jouait aussi son maintien, devait absolument gagner ce match.
C'était 17e avant la journée.
Exactement, il fallait une victoire, et une victoire propulsait Caen, donc sauvé, et enfonçait Saint-Etienne, qui aurait été relégué dans ces cas-là en Ligue 2. Mais le début de match, c'est Caen qui donne tout, et il y a d'ailleurs, c'est drôle, parce que 10 ans plus tard, s'il y avait eu la VAR... Il y a une grosse faute de Diawara.
Dans les débats d'arbitrage.
Non, mais s'il y avait une grosse faute de Diawara sur Ben Kalfala, au bout de 5 minutes, Stéphane Lannoy, qui est quand même pas le plus inexpérimenté des arbitres à l'époque, dit qu'il n'y a rien. Et aujourd'hui, effectivement, s'il y avait eu la VAR à l'époque, il y aurait eu pénalty pour Caen et ça aurait peut-être changé tout le match.
Bordeaux avait peut-être les pieds qui brûlaient un petit peu parce que cette saison-là, elle est particulière. Les Girondins ont été champions en 99.
10 ans avant.
Avec un souvenir mémorable pour tous les supporters, pour tous les joueurs. Et 10 ans plus tard, le scénario se reproduit. C'est encore face à Marseille à distance, mais face à Marseille. Le titre est là, il est dans 90 minutes, même pas, tout est réuni.
10 ans avant, un nul ne suffisait pas aux Bordelais.
Non, et c'était à Paris. Mais les supporters en gardaient un tel souvenir, les joueurs aussi, que ça semblait clair que là, ça ne pouvait pas leur échapper. Sauf que c'était une équipe majoritairement jeune. À part Ulrich Ramé, personne n'avait été sacré champion avec les Girondins. Donc, l'expérience, finalement, cette équipe-là n'en avait pas trop. Elle se demandait si elle pouvait y arriver, si le pire pouvait se passer aussi. Et quand est bien entré dans son match, il y a une grosse occasion, je crois qu'il y a une tentative de Savidan. Ulrich Ramé s'en sort bien. Alors, il faut savoir que la saison, elle avait été compliquée pour Ramé. Il avait raté beaucoup de matchs, il avait été blessé. C'est Mathieu Valverde, le remplaçant, qui avait régulièrement joué. Enfin bref, ce match-là était sans doute le plus dur des trois derniers mois de la saison des Girondins.
Je crois.
J'ai pas un souvenir comme ça hyper clair du match que j'ai donc revu pour les besoins de notre émission, mais je me souviens surtout que Bordeaux était complètement intouchable en cette fin de saison, intouchable. Ils restaient sur une série de 10 victoires consécutives. C'était déjà quasiment un record dans l'histoire du foot français. Il faut se remémorer que encore à la 30e journée, on pense pas que c'est Bordeaux qui va être champion. En tout cas, que Bordeaux puisse être en position d'être champion, puisque c'est Lyon qui est en tête du championnat. Puis Lyon va s'écrouler et on est donc sur une série mais incroyable, jamais vue, de 30 points sur 30 possibles. Et même Marseille, qui fait une super fin de saison en boulet de canon avec Guéret sur le banc, n'arrive pas à suivre le rythme. Et puis le tournant, c'est quand même à la 36e journée, où Lyon, qui va moins bien, mais est quand même décisionnaire, puisqu'ils vont gagner 3-1 à Marseille avec Maxime Moribon, un doublé de Benzema. Et Marseille va se contenter, une fois de plus, d'une place sur le podium, alors qu'on rappelle, ils n'ont plus été champions depuis 1992.
Vous parliez de la série bordelaise, elle commence mi-mars. Les Bordelais qui gagnent contre Nice et qui vont enchaîner 10 victoires de suite avant donc ce déplacement à Caen. Donc Bordeaux préserve le nul à la pause, Marseille aussi contre Rennes, mais Alou Diarra, à l'époque bordelais, n'est pas satisfait de la première période des Girondins.
On reste à 0-0, ça reste un bon score pour nous, mais pour être définitivement à l'abri, on veut ouvrir le score, mais on doit tuer l'adversaire quand on prend le dessus. Et voilà, on tombe sur une équipe de camp très motivée qui veut son maintien. À nous de leur donner aucune chance, mais il faut ouvrir le score.
C'est ce que vous disiez tout à l'heure, David. Caen joue son maintien et Alou Diarra, lui, veut être sacré champion.
Ouais, c'est logique. Enfin, jusqu'ici, Caen joue de manière logique. C'est une équipe qui ne devait sans doute pas se retrouver là à jouer son maintien. Elle avait réussi à recruter Steve Savidan, qui était un super joueur à l'époque, hein, qui aurait dû signer à Monaco quelques semaines plus tard. Caen était poussé par son public. Il y avait quand même toute une ambiance qui faisait que c'était assez hostile. Après, pour reprendre les termes de Geoffroy, Bordeaux était au-dessus. Les Girondins semblaient intouchables. Depuis une défaite à Toulouse, donc mi-mars, 3-0, je ne sais pas ce qui s'est réellement passé, mais ils ont réussi à tous se remobiliser et c'est là où ils ont enchaîné les 10 victoires d'affilée. Ils sont passés du tout au tout. Et quand ils se présentent à Caen, c'est vrai que la première mi-temps est peut-être équilibrée. Oui, le ballon semblait un peu brûler les pieds de certains Girondins. Caen y croyait, mais il y avait quand même une différence de niveau entre les deux.
Pour la petite histoire, Bordeaux n'avait jamais gagné à Caen. Que la saison précédente...
Vous avez repris vos fiches d'il y a 10 ans ou pas? Vous avez ressorti les petits chemisiers?
Non, mais l'année précédente, Caen avait infligé un 5-0 à Bordeaux. Donc ça avait un peu chambré à l'époque. Les Bordelais se méfiaient. Pour la petite histoire aussi, la mise au vert des
Beaucoup
Canets...
Beaucoup de petites
histoires. Ouais, mais c'est,
donc,
c'est le
but. Vous avez vraiment ressorti votre petite chemise de l'époque.
Oui, je me suis habillé comme en 2009. Voilà. les Canets devaient se mettre au vert dans un endroit habituel et ils n'ont pas pu. Ça a été une mise au vert perturbée parce que l'établissement où ils devaient aller, il y a une cliente qui avait chopé la grippe aviaire, figurez-vous. Et donc, pour pas contaminer toute l'équipe de Caen, ils ont dû changer leurs habitudes. Et donc, ils ne sont pas allés au même endroit. Ça a pu les perturber. Le coup d'envoi aussi a été retardé, avec une histoire de filet aussi qui n'était pas tendu. Enfin, bref,
de vache folle, cette fois-ci.
Voilà, c'était les filets fous. Défilé fou. Et les Canets, bon, alors vous parliez de Savidan, qui était le meilleur buteur de Caen, mais ça s'est quand même mal fini avec Caen. Donc le public, effectivement, encourageait Savidan, mais voilà, il est parti à Monaco, puis après on a su que 2 mois plus tard, il mettait fin à sa carrière à la suite d'une anomalie cardiaque. Mais voilà, mais les Canets, c'est vrai, ont été entreprenants, mais un peu timides quand même, un petit peu timorés, et bah, c'était une équipe qui était en position de relégable. Donc il y avait quand même déjà un fossé, même si Bordeaux, Nicolas, tu as raison, Bordeaux a été... c'était pas le grand Bordeaux ce jour-là, et notamment à l'image de Gourcuff, qui n'a pas fait son meilleur match de l'année.
Alors ils veulent tuer Caen, les Bordelais et Alou Diarra, car les Normands, en cas de défaite, seraient relégués en Ligue 2. Et c'est un ancien Canet, un homme formé à Malherbe, qui va donner le baiser de la mort à ses anciens coéquipiers.
Johan Gourcuff, c'est parti, il a réussi à écarter un petit peu comme lors du dernier match, l'avant-dernier match à domicile.
Et but ! Putain, les Girondins de Bordeaux ! Et on départ encore l'inspiration, génial ! Cuff, Bordeaux, quand 0.
David, vous êtes un peu en retard sur le but.
Non, mais alors, franchement.
Vous aviez vu que c'était coup franc qui avait marqué quand
non,
même
mais,
ou pas
vous savez que ce coup franc, il est incroyable parce que normalement, n'importe qui dans cette position, à l'image de Gourcuff, ils sont tiré directement.
Ils sont à 25 mètres, un
petit
peu
décalé.
Il est à 25
mètres, il n'a plus qu'à tirer directement. Eh ben non, il surprend tout le monde, il écarte sur Tremoulinas, qui fait un centre génial pour coup franc. Et c'est dès le début de la seconde période.
Geoffroy Garrettier.
Et David qui nous dit à raison que Gourcuff fait pas son meilleur match de la saison, mais il y a quand même l'inspiration géniale, hein,
ah ben oui.
Si on vous entend. Il faut se souvenir, parce qu'on a peine à le croire, et c'est maintenant il y a 10 ans, que Johan Gourcuff fait donc à 22 ans la meilleure saison de sa carrière. Il arrive du Milan, il est prêté par le Milan à l'été 2008, et petit à petit il va monter en puissance à tel point, rappelez-vous, que l'équipe va titrer le successeur avec une photo de Gourcuff et Zidane en filigrane. Il y avait notamment ce but incroyable contre le PSG, avec l'enchaînement crochet, roulette et cette frappe croisée au mois de janvier, qui fait qu'on se dit, ah bah tiens, là on tient enfin le grand joueur français des années à venir. Mais ce qui est terrible, c'est qu'en fait, c'est la meilleure saison de sa carrière, et derrière, ça va être le début d'un long déclin.
Nicolas.
Petit à petit, parce que la saison suivante, il est encore magnifique. Bordeaux va en quart de finale.
Il est encore bon 6 mois.
Et oui, mais Bordeaux compte 10 points d'avance à la trêve sur les poursuivants. 8 points.
Oui,
mais vous savez, dans le sud-ouest, on aime bien rajouter. On aime les contrôles.
Je sais, c'est pour ça que je vous reprends.
Mais il a duré quelque peu, puisque un an plus tard, il est vendu pour plus de 20 millions d'euros, précisément 23.
À Lyon, avec bonus, avec les bonus. Mais, c'est quand même malgré tout, Nicolas, cette saison de Bordeaux, c'est quand même son sommet.
Mais moi, sincèrement, pour avoir suivi les Girondins toute cette saison-là, avoir vu tous leurs matchs, je n'avais pas vu en France un joueur aussi fort depuis plus de 10 ans. Et même pendant les années qui ont suivi, qui a fait une meilleure saison de Gourcuff depuis? C'était fou.
Alors en ce moment-là, on le rappelle, Bordeaux mène. Il suffit d'un nul au Bordelais pour être sacré. Ils n'ont jamais paru si proche de leur 6e titre de champion de France, alors qu'ils avaient été loin un peu plus tôt dans la saison, notamment pendant la 33e journée de Ligue 1. On le rappelle, les Bordelais gagnent de façon miraculeuse à Rennes, alors que Marseille s'est imposé 3 jours avant et avait mis la pression justement sur les Bordelais, Geoffroy.
Non, mais c'est cette histoire, c'est, j'ai envie de dire, une fois de plus, la déception et l'incapacité marseillaise d'aller au bout d'une aventure. Il faudra donc que Deschamps arrive à l'intersaison, prenne le banc marseillais pour que Marseille se remette à gagner des titres. Mais depuis donc 92, ils sont systématiquement, hormis donc la petite période où ils sont les 2 ans qui passent en D2 après l'affaire VAOM, ils sont systématiquement 3e, 2e, 4e, 3e. Et l'année précédente, ils étaient encore, si ma mémoire est bonne, 3e, 2e, 2 ans avant. Donc là, ils y croient vraiment, hein, parce que globalement, c'est peut-être la meilleure équipe sur la régularité, c'est la meilleure équipe de l'année. Ben Arfa fait une très bonne saison, il y a une équipe qui est très complète, Guéret, ça a insufflé quelque chose. Et malheureusement, dans le moment décisif, ils ne vont pas y arriver.
Mais dans le même temps, les Marseillais face à Rennes se sortent enfin du piège breton.
Oh, but des Marseillais face à Rennes. Pas qui connaît le petit Ivoirien qui vient libérer le Vélodrome. Pour l'instant, ils ont rempli leur mission, les gens de l'Olympique de Marseille et l'OM. Mais 1-0, Jean-Pierre.
Ah, ça rappelle les souvenirs, ce but. Hein.
Oh oui, on dirait
ballon sur le côté droit là-bas.
Oh oui.
Et la volée croisée de l'autre côté, elle est parfaite et surtout, elle permet à ce peuple encore d'espérer.
Oui, Jean-Pierre Papin le dit, espéré, Baki Koné qui donne le but de l'espoir à Marseille. Vous qui étiez à Bordeaux, est-ce que vous voyez le banc bordelais réagir au but marseillais? Est-ce que vous entendez un frisson peut-être? Est-ce qu'on commence à avoir peur ou à douter?
Non, parce qu'ils sont en position de force, les Bordelais. Ils ont quand même une marge de sécurité qui est quand même impressionnante. Et puis, il y a une confiance. On l'a dit, ce n'est pas le meilleur match de Bordeaux à Caen, mais il y a une grande confiance. Techniquement, c'est fort. Voilà, ils ne tremblent pas. Ils ont évidemment une oreille attentive sur ce qui se passe au Vélodrome. D'ailleurs, au Vélodrome, tout va se jouer en 20 minutes, hein, finalement. Mais les Marseillais ont énormément dominé ce match. Mais voilà, même si Marseille avait gagné, et d'ailleurs, ils ont gagné largement, mais Bordeaux pensait uniquement à son match. Quand même.
Justement, Marseille, au Vélodrome, déroule.
Défensive et d'occasion pour un but marseillais, 2-0 pour l'Olympique de Marseille. Mamadou Niang, après une occasion énorme d'abord pour Baki Koné, on va recaler ça tranquille parce que Niang s'est fait mal dans un contact là juste avant sa dernière frappe. Mais à Marseille, mène bien 2-0.
Et justement, les Marseillais qui mènent 2-0, ça y est, on sent qu'ils sont libérés au Vélodrome. Ils font le boulot, mais ils sont dépendants du résultat de Bordeaux à Caen.
Le résultat qui ne bouge plus, parce qu'en fait, le match est cadenassé par les Bordelais.
Vous spoilez un peu, là, Nicolas.
Pas du tout, mais qui ne bouge pas. Bon, en même temps, il suffit de regarder le palmarès. Je veux pas trop... On n'est pas dans un épisode de Game of Thrones non plus.
Non, mais c'est, à Marseille, c'est la fête, malgré tout. Franchement, y a forcément la déception de ne pas avoir réussi dans la dernière soirée, à rattraper Bordeaux. Mais moi, je me souviens, Guéret s'est ovationné. C'est un festival. Ils accrochent la deuxième place.
C'est un énorme regret.
Non, mais ce n'est pas ce soir-là qu'ils perdent le titre, de toute façon, Marseille.
C'est la 36e contre Lyon.
Contre Lyon. Parce qu'ils font une super fin de saison, quand même, Marseille. Oui. Tu l'as dit, Geoffroy. Ils perdent contre Lyon. Ils perdent, je crois, 2 points contre Toulouse. Mais sinon, il faut une série de 9 victoires en journée. Hein.
Si Bordeaux prend 33 points sur 33 possibles sur les 11 dernières journées, Marseille en prend 28, je crois. Ce qui est donc, là encore, un truc absolument énorme. Mais à un moment, quand il y a plus énorme que toi, qu'est-ce que tu peux faire, Nicolas ?
S'il y a bien un match qui a été fêté à Bordeaux à l'époque, ben c'est ce match entre l'OM et l'Olympique Lyonnais. Les bars du centre-ville étaient pleins. C'était un dimanche soir, 21h sur Canal. Mmh. Et je me souviens que beaucoup de supporters bordelais le regardaient. Ils n'avaient jamais été autant derrière l'OL. C'était fou de ressentir cette ambiance-là dans une ville qui normalement n'a rien à voir avec un OLOM, et pourtant c'était bouillant.
C'était juste rappeler que il y a un lien quand même incroyable entre Bordeaux et Marseille. C'est que les 3 derniers titres de champion de France de Bordeaux, c'est après une lutte avec Marseille. Et il y avait eu encore une, avec quand Guettal, c'était sur le banc bordelais, en 90, une lutte très forte entre les deux du temps du duo Bestapi. Donc il y a ce côté historico qu'on a peine aujourd'hui à se souvenir, parce que Paris a tellement tout écrasé, parce que Lyon a conquis 7 titres de suite. Mais Bordeaux-Marseille, c'est quelque chose de
super
fort.
C'est pour ça qu'on avait appelé cette émission Retour vers le futur.
Mais c'est, le titre de Marseille est aussi a été cherché, a été gagné face aux Bordelais qui ont craqué dans les dernières journées. Mais ce sont les Girondins qui sont en tête du championnat et ils sont un formidable lièvre pour l'OM qui va finir par aller le chercher.
Alors vous l'avez dit, c'est le dernier match d'Éric Guéret à la tête de l'Olympique de Marseille et ses joueurs veulent lui offrir un dernier feu d'artifice.
Monégasque, le troisième. Encore le troisième du Marseillais, Baki Koné toujours.
Le troisième et la pirouette de Baki Koné, le doublé. La réussite, elle a changé de planche en terre. On va revoir la frappe et c'est contre son camp que Dougel projette ce ballon dans ses propres filets. 3-0 pour l'Olympique de Marseille.
Nicolas, je vous vois sourire là pendant qu'on en écoutait le but de Baki Koné.
Oui, bah parce que Marseille déroule, mais en fait le scénario était ficelé quand même. C'est-à-dire que Bordeaux, rien qu'avec ce but à Caen, 1-0, ne fait pas un grand match du tout. L'OM, c'est ça qui est particulier quand on le revit, quand on réécoute les commentaires de l'époque. L'OM pouvait en mettre 6 de plus, oui, c'était la fête, rien. Mais ça ne changeait absolument rien, c'est ça qui est fou.
Geoffroy.
Il faut se souvenir qu'il y a un contexte aussi un peu spécial sur ce match par rapport à Guéret, parce que Guéret a totalement été adopté par le public marseillais. Et il y a eu un problème dans la prolongation de son contrat. Lui, il estime qu'en réalité, on ne lui a pas fait la proposition qu'il attendait. À l'époque, c'était Pape Diouf, je crois, le président. Donc, il se drape dans sa dignité comme un vieil sénateur romain et il décide de partir et de quitter le club. Et j'ai envie de dire, c'est dommage. Parce que l'année suivante, Deschamps arrive et Marseille est enfin champion.
Récolte un peu les
champion.
Du travail d'Éric Guéret aussi.
Oui, mais c'est vrai, bien sûr. Et si vous prenez en popularité au XXIe siècle les entraîneurs de l'OM, je pense que même si Bielsa a une place à part par sa folie, etc., c'est vraiment lui va rester.
David. Ah oui. Non, c'est lui qui a été adopté. D'ailleurs, c'est vrai, ce match, moi, je le vois en train de lever les mains en l'air, ovationné par le public, qui pourtant, alors, il séduisait par son style de jeu, évidemment. On a aimé, et d'ailleurs, tous les buts de Marseille ce jour-là contre Rennes, ça va à une vitesse incroyable. Koné, c'était la petite mobilette qui réussit pas le doublé, parce que c'est un but contre son camp de Duchesse, mais il y a Niang qui en met 2 également. Ça va hyper vite, ça se projette vers l'avant. La frustration pour Marseille, on a dit que Marseille a perdu le titre contre Lyon cette année-là, juste quelques semaines avant. Mais c'est aussi les matchs à domicile, bizarrement. Parce que le bilan, cette année-là, de Marseille à domicile, c'est 35 points à domicile, 42 à l'extérieur. C'est-à-dire qu'ils ont failli être champions en gagnant en déplacement, parce qu'ils jouaient de la même façon, d'ailleurs, en déplacement. Le match aller, d'ailleurs, de Rennes avait été épique. C'est un des matchs qui restera dans l'histoire, 4-4 entre Rennes et Marseille. Là, il n'y avait pas photo, 4-0 pour Marseille.
Marseille déroule face à Rennes, 4-0, dernier but de Mamadou Niang. Mais c'est terminé à Bordeaux, les Bordelais sont champions.
C'est fini, Bordeaux, sacré champion de France.
grâce à un but de Gouffran dès l'entame de la seconde période. Bordeaux arrache sa 24e victoire de la saison, 10e à l'extérieur, 11e d'affilée. Ça aussi, c'est unique.
Alors, on a entendu évidemment la fin de match à Caen, puisque le score ne bougera pas et que les Bordelais n'étaient dépendants que d'eux-mêmes, et que cette victoire à Caen sacre pour la 6e fois Bordeaux.
On n'a pas parlé de Gouffran. Qui a marqué ce but, qui donc entérine le titre de Bordeaux. Gouffran, qui avait été très malheureux tout au long de la saison. C'est son deuxième but seulement cette saison, formé à Caen. Pour ça que quand il marque, il a une joie très mesurée. Mais c'est pour dire que c'est assez symbolique. Non, Gouffran, on n'en a pas vraiment parlé. Deux buts seulement, très malheureux toute la saison, ça, c'est lui qui marque.
Et même remplaçant la plupart du temps sur les dernières semaines, parce que Laurent Blanc avait enchaîné les victoires avec les Girondins. Et parce qu'il avait trouvé une équipe aussi qui était surprenante. Grégory Sertic, à l'époque, commençait sa carrière, formé comme meneur de jeu. Il a débuté un petit peu en 6. Il le faisait jouer milieu droit, principalement. À la place de Gouffran, dans un 4-4-2 en losange, où Chamakh et Kavenaghi étaient associés, avec Gourcuff en numéro 10. Et quand il a trouvé cette équipe-là, il ne l'a plus touchée, à part pour le match du titre à Caen, où il a aligné à nouveau ses titulaires habituels, c'est-à-dire Wendel milieu gauche, Gourcuff en 10 en soutien de Chamakh, avec Johan Gouffran ailier droit, un 4-2-3-1 qu'il avait quitté depuis un petit moment. C'est peut-être aussi pour ça que les Girondins avaient eu du mal en début de match face à Caen, parce qu'ils jouaient un peu moins souvent dans ce dispositif-là.
Il sort à la 86e ce soir-là, Johan Gouffran. Écoutez ce qu'il dit à la fin du match, une fois que les Bordelais sont sacrés champions de France.
C'est un sentiment particulier, je suis un peu énervé, on va dire, parce que c'est mes potes, je les vois pleurer. La dernière, j'étais avec eux, je sais comment c'est galère, donc voilà, je suis content, mais je le fêterai sur Bordeaux, pas ici, j'ai vraiment pas la tête à ça. Et voilà, encore une fois, je suis désolé, putain, je sais pas quoi dire.
Geoffroy, c'est rare d'entendre un joueur qui vient d'être sacré champion de France pour la première fois de sa carrière et qui est désolé.
Ben oui, je comprends, mais en même temps, qu'est-ce que vous voulez ? Parfois dans la vie, il y a des clins d'œil qui sont heureux, qui sont malheureux. Par exemple, autre clin d'œil qu'on aurait pu relater, d'ailleurs que je vais relater, c'est quand il y a le quatrième but marseillais qu'on a entendu. Juste après, il y a quelqu'un qui rentre, qui remplace Ben Arfa, et ce quelqu'un, c'est Sylvain Wiltord, qui 10 ans, quasiment jour pour jour avant, était champion de France avec Bordeaux cette fois, contre Marseille. Enfin, au Parc des Princes, mais c'était Marseille qui était deuxième.
Il avait joué un rôle prépondérant, effectivement, Nicolas.
Gouffran, c'était son club de cœur, parce qu'il était il a explosé là-bas en Ligue 2, et c'est lui qui a contribué, qui a été le meilleur joueur de la saison 2006-2007, lorsque Caen arrive à remonter en Ligue 1. Donc, l'air de rien, avec le but qu'il marque, il sait qu'il envoie le club qu'il a fait monter, le club qu'il a porté, de se faire connaître dans toute la France. Souvenez-vous, il y avait eu la signature possible au PSG, finalement la volte-face pour rester à Caen, pour aller à Bordeaux. Bref, ça avait fait beaucoup de bruit tout ça. Et donc, l'air de rien, il y avait pas mal d'émotions pour Johan Gouffran à l'issue de ce match. C'était son titre de champion de France. Mais en même temps, imaginez, le club qui vous révèle, vous l'envoyez au niveau du dessous.
Alors, Bordeaux est sacré. Et après le match, certains, comme Souleymane Diawara, ont encore du mal à redescendre.
On ne réalise pas encore, je pense qu'on va réaliser quand on va vraiment arriver à Bordeaux. Mais ce soir, je suis vraiment heureux, c'est la plus belle chose qui m'est arrivée au football.
Vous avez une petite pensée pour Mamadou Niang, ils ont fait le boulot, Marseille, de leur côté.
Ils ont fait combien ?
4-0.
Ah, félicitations Marseille, félicitations. Mais bon, nous, le plus important, c'était nous, on ne s'est pas occupé de Marseille, on n'a pas voulu savoir le résultat de Marseille, tout ce qu'on voulait, c'est de rester dans ce match. Prendre les 3 points et après regarder Marseille. Ben là, vous venez de me l'apprendre, ben, tant mieux pour eux.
Il était au micro de Dominique Armand, Souleymane Diawara, qui ne s'était pas renseigné sur le score de l'Olympique de Marseille, puisque Bordeaux était, on le rappelle, seul maître de son destin. Ça fait la deuxième fois de suite que Bordeaux est sacré à l'extérieur.
C'était 10 ans avant au Parc des Princes.
Ouais,
ouais, c'est ça. Et encore une fois, Marseille est.
Mais c'est peut-être pour ça aussi qu'on n'a pas de diffusion de joie comme on peut le voir sur certains titres.
Non, mais on peut pas comparer l'émotion du titre de 2009 qui était quand même, je veux dire, en germe. Ce match que David a commenté à Caen, vous imaginiez assez peu quand même malgré tout quand le gagner et Bordeaux fait faiblir. Alors que rappelez-vous, au Parc des Princes, 10 ans avant, ça se passe à la dernière seconde avec le but de Fenduno. Donc je suis pas certain que ce soit quand même la même émotion pour le club. Et en tout cas, le scénario en lui-même était légèrement un peu plus prévisible.
Nicolas.
Il était tellement prévisible que la place des Quinconces avait été préparée pour suivre le match qu'en Bordeaux. La ville de Bordeaux est souvent, enfin les supporters sont souvent moqués pour leur absence de ferveur. Il y avait 80 000 personnes quand même, hein. Et c'était pas selon la police ou les syndicats. Pour le coup, il n'y avait pas de syndicats.
Encore, vous nous faites comme tout à l'heure.
Non, c'est vrai. Vous pouvez vérifier. C'est écrit sur Wikipédia, Paul Figuera.
Ah bah, non, bonne plus, source, tiens. Oui, c'est lui qui a écrit l'affiche.
Non. Et je suis très sérieux. Vous savez, s'il y a des choses avec lesquelles on rigole pas, c'est bien le foot. Et donc, il y avait 80 000 personnes place des Quinconces pour suivre le camp Bordeaux. Absolument pas, puisque si vous étiez là en début d'émission, David,
David, il n'est plus là.
Vous auriez su que j'étais également au stade d'Ornano. 80 000 personnes pour suivre ce match-là, qui ont fait la fête toute la nuit. Et ça a été rebelote le lendemain, en fin de matinée, pour présentation du trophée, etc., avec le retour des joueurs. Tandis que 10 ans plus tôt, vous en parliez, Geoffroy, il n'y avait rien qui avait été prévu à Bordeaux pour fêter le titre potentiel, le déplacement au Parc des Princes, quand Marseille
affrontait Nantes. Les supporters, à l'époque, étaient à la patinoire.
Non, absolument pas. Mais il y a une histoire qui est folle, c'est que le stade Lescure avait été ouvert en pleine nuit, et les joueurs y étaient retournés. Il y avait entre 30 et 35 000 personnes, j'avais eu du mal à compter à l'époque, qui étaient venues célébrer tout ça en pleine nuit. C'est ça qui était formidable.
Mais là, je ne racontais pas une bêtise quand je vous disais que les supporters étaient à la patinoire à Bordeaux où il y avait un écran.
Non,
il y avait un écran qui avait été installé pour suivre le match. C'est pas
d'accord.
Il y avait, on a entendu Diawara, Souleymane Diawara, qui lui, là encore, il faut rappeler, parce qu'il y a les opportunités dans une carrière. Et il va faire un truc incroyable. C'est que cette année-là, il gagne la Coupe de la Ligue et le championnat avec Bordeaux et Laurent Blanc comme entraîneur.
Oui, parce que Bordeaux a gagné la Coupe de la Ligue.
Absolument, battant Vannes 4-0.
Exactement.
Et l'été suivant, il part à Marseille. Et il va faire la même chose avec Marseille. Il va être champion avec Marseille. Il va gagner la Coupe de la Ligue avec Marseille en battant en plus Bordeaux en finale. Donc lui, il était vraiment là sur la... Il surfait sur la vague de la réussite.
Si on en revient, David, à cette ambiance un petit peu particulière qu'il y a à Caen, entre une équipe qui descend et Bordeaux, vous la ressentiez au poste commentateur ?
Ah bah oui, là il y a un contraste incroyable. Il y a une équipe qui, en plus, n'était pas du tout façonnée pour lutter pour le maintien. Quand ils avaient fait venir Savidan, c'était pour essayer de jouer vraiment dans le top 10. Donc ils tombent de très très haut. Et effectivement, on voit des joueurs qui... Enfin, c'est terrible. Il y a tout le camp des supporters bordelais qui fait la fête. Et puis tout le stade d'Ornano qui est atterré par ce finish. Ils étaient condamnés à l'exploit. Ils n'ont pas réussi. On a vu un petit peu les limites de cette équipe cannaise. Et puis, il y a plein de joueurs qui étaient là depuis très longtemps aussi à Caen qui voient le club finir en enfer.
Alors, les Bordelais sont heureux, mais on sent aussi cette retenue dans les propos de Laurent Blanc, qui était l'entraîneur à l'époque. Il est tranquille, mais vainqueur de son premier titre en tant qu'entraîneur.
Ce soir, c'est une grande satisfaction pour les garçons. Je crois que Marseille avait dit qu'il méritait le titre autant que Bordeaux. Je le pense. Mais on a fait quand même le nécessaire ce soir pour pouvoir gagner le titre, nous.
Oui, Laurent Blanc, on a parlé tout à l'heure d'Éric Guéretz et de Didier Deschamps qui a pris sa suite. Laurent Blanc, lui, il a pris la suite de Ricardo. Si on se rappelle des années 2000 à Bordeaux, il y a un maintien qui se joue à la dernière journée. Éric Bédoué a pris la place de Michel Pavon pendant la saison. Les Girondins sont au bord de la descente. Ça se joue à la dernière journée contre Marseille, en plus, au stade Chaban-Delmas. Et derrière, Ricardo arrive et parvient à redresser le club. Il fait venir Wendel, Henrique, Fernando, trois Brésiliens qui vont considérablement remonter le niveau de l'équipe. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, ils obtiennent une deuxième place en 2006-2007.
Derrière Lyon.
Derrière l'Olympique Lyonnais.
En étant d'une efficacité défensive incroyable.
1-0. Pas de but. Beaucoup de matchs nuls et des victoires 1-0. Ricardo, c'était la solidité. Ensuite, il part à Monaco. Et c'est Laurent Blanc qui débute sa carrière d'entraîneur. Il fait tout de suite deuxième du championnat derrière l'Olympique Lyonnais. Et là, le titre se joue aussi à la dernière journée. Mais Bordeaux va d'ailleurs condamner Lens en allant à la dernière journée à Bollard et le Racing descend. Et la saison d'après, c'est le titre. Tout va très vite pour Laurent Blanc, mais qui a également su continuer le travail effectué par Ricardo.
C'est les années de grâce de Bordeaux quand même. Depuis 2009, donc Bordeaux n'a plus terminé une seule fois sur le podium. Bordeaux s'est écroulé, comme Nicolas le rappelait tout à l'heure, à partir du mois de janvier, février, mars 2010. Et quand on se rappelle, donc effectivement, ils sont deuxièmes en 2006 avec Ricardo. Ils gagnent la Coupe de la Ligue en 2007 en battant Lyon en finale, vous vous souvenez ?
Le but d'Henrique.
Sur un coup de tête d'Henrique, effectivement, en toute fin de match. Donc deuxième à nouveau en 2008. Ils retrouvent la Ligue des Champions et en 2009, ils sont champions. L'année suivante, même si, pour le coup, ils ne termineront que sixième, ils seront en quart de finale de la Ligue des Champions, éliminés par Lyon. Et là, c'est vraiment, on va dire, parce que c'est toujours intéressant de regarder comme ça le parcours d'un club ou d'un... Ou, d'un humain avec un peu de recul.
Et là, philosophe Geoffroy Galatier.
Et là, pour le coup, non, mais c'est le sommet de Bordeaux. Et là, avec le rachat du club par les Américains, la nomination de Paulo Sousa, il y a plein d'ambitions. Mais j'ai peur que ce soit compliqué de retrouver ces années-là.
David.
On parle de Laurent Blanc tout en retenue. Moi, ça me fait penser quelques mois avant. Donc, on parle de cette saison 2008-2009. Il y a une victoire très importante de Bordeaux à Monaco. C'est le dernier match de l'année 2008. C'est la fin des matchs allés. Et les Bordelais sont menés 3-0 à Monaco. Tout le monde dit ça, ils sont en vacances. Ils ont fini deuxième d'ailleurs, deuxième à la fin des matchs allés, derrière Lyon, qui à cette époque espérait encore accrocher un huitième titre. Et il va y avoir un retournement de situation incroyable, puisque Bordeaux va gagner à Monaco 4-3. Et on interroge, c'est Paga d'ailleurs qui interroge Laurent Blanc à la fin de ce match, en disant « Elle est incroyable votre équipe, elle était en vacances en première période, et après elle se lâche et elle gagne 4-3 ». Et il répond « Bah oui, et tout en retenue, c'est pareil, il n'est pas fougueux, et quelques mois plus tard, pour fêter le titre, là aussi, tout en retenue ». C'est du Laurent Blanc.
Alors Laurent Blanc, tout en retenue justement, à la grande différence malgré tout de Jean-Louis Triaud, le président bordelais, qui n'en pouvait plus à la fin de la rencontre.
Putain, c'est épuisant, épuisant. J'ai jamais vu un match durer aussi longtemps. En plus, un contexte que je déteste. Il y avait une télé derrière qui me donne. Alors, tous les mecs me donnaient le score de Marseille toutes les 5 minutes. Pénible.
C'est marrant quand même de revivre ça et de voir la différence de perception entre les acteurs, entre Gouffran qui est mitigé, entre Laurent Blanc qui est dans la retenue et Jean-Louis Triaud qui a vécu le match. Presque de façon difficile, on l'entend.
Oui, c'est du Triaud aussi. Hein. C'est un personnage avec sa façon de parler, de s'exprimer. Il l'a ressenti comme ça. Lui, il était là du titre de 99. Donc, c'était pas la première fois qu'il avait un titre à aller chercher à l'extérieur comme ça. Puis, c'est le poids des responsabilités aussi. Hein. C'est l'équipe qui l'a monté. Laurent Blanc, c'est son choix numéro un. C'est lui qui est allé le chercher. Et deux ans plus tard, il en récolte comme ça les fruits. C'est formidable. Donc, oui, il y a de l'émotion.
Geoffroy. La performance de Bordeaux, elle est quand même énorme. On a parlé de la fin de saison, il termine avec 80 points.
11 victoires de suite, voilà. Ça a été le record.
Ça a été le record jusqu'à ce que Monaco le batte en 2016-2017. Mais le plus énorme de tout, c'est la fin du règne de Lyon. Et il faut se souvenir qu'à la 30e journée, c'est-à-dire à 8 journées de la fin, Lyon est encore en tête du championnat.
Ils ont été en tête pendant 25 journées.
Exactement. Et ils vont s'écrouler. C'est la première, malheureusement, la première saison de Claude Puel. C'est déjà le début de la fin de cette génération fabuleuse qui les a portés pendant si longtemps. Mais Lyon, 7 fois champion consécutivement, ne prendra que 18 points sur les 11 dernières journées. Et ce qui apparaissait presque impensable, eh bien, se déroule. Et c'est Bordeaux et Laurent Blanc qui ont le privilège et j'ai envie de dire la grâce de mettre un terme et de renverser le roi Lyon.
David. Bordeaux n'aurait peut-être pas été champion s'ils n'avaient pas raté leur campagne européenne.
Peut-être.
Parce que souvenez-vous, ils sont éliminés en poule de Ligue des Champions. Rome, Chelsea
et Cluj.
Et Cluj, ils battent Cluj les deux fois.
Ils se prennent un 4-0 mais, contre Chelsea.
Voilà, ils terminent troisième. Donc 3, ils sont reversés.
3-0, c'est la première journée.
Voilà.
Là-bas.
3-0. Ils font un automne donc catastrophique au niveau européen. Ils sont reversés en Ligue Europa. Où ils tombent contre Galatasaray et ils sont sortis. Donc ils sont quand même éliminés en février de toute compétition européenne et ça va coïncider sans doute avec un peu plus de fraîcheur, d'énergie pour finir cette saison 2008-2009 en boulet de canon.
Et Nicolas. C'est l'inverse la saison d'après puisque les Girondins vont jusqu'en quart de finale face à l'Olympique Lyonnais. L'OL va jusqu'en demi-finale de la compétition et aucun de ces deux clubs-là n'est finalement sacré alors que les Bordelais étaient en pole position pour terme,
alors c'est que gros. C'est Marseille qui est éliminé en poule qui va être champion de France.
On a du mal à aller loin en Coupe d'Europe en France et être champion en même temps.
Hein, ben voilà,
alors, le contraste évidemment est là entre des Bordelais qui sont heureux et les Marseillais déçus. Éric Guéretz, lui, je vous le disais tout à l'heure, qui disputait son dernier match en tant qu'entraîneur de l'Olympique de Marseille, laisse la trace d'un entraîneur qui aura marqué l'OM en seulement 2 saisons passées sur le banc.
La fin de ma plus belle période comme entraîneur, en tout cas. Malgré le fait qu'on n'a finalement rien gagné. On a été troisième dans des circonstances difficiles la saison passée. Et on n'est que deuxième.
On l'entend à sa voix que c'est un déchirement, Geoffroy.
Bien sûr. Mais pour lui, je pense que la déception est considérable. La déception, parce qu'il sait qu'il va partir. Et il se serait tellement vu rester, je pense, une troisième saison sur le banc marseillais. Mais il faut, au-delà de la troisième place dont il parle et de la deuxième place, il faut se dire aussi que c'est quelque part lui qui a rallumé la flamme de Marseille en Coupe d'Europe. L'année d'avant, il y a eu cette victoire à Liverpool improbable avec le but de Valbuena que Guérez a quelque part lancé. Et donc, c'est aussi pour ça que je pense que le public marseillais lui est aussi attaché.
Le petit vélo.
Le petit vélo, absolument. Le petit vélo. Absolument.
C'était comme ça qu'il surnommait Mathieu Valbuena.
Non, c'est vrai que je me remémorais en même temps que Geoffroy en parlait, le but de Valbuena qui était lancé presque en pro en Ligue 1, en Ligue des Champions par Guéretz. Quelle émotion.
Merci beaucoup, messieurs, merci d'avoir été avec nous. C'est déjà la fin de ce Canal Football Classique. Ce duel à distance entre Bordelais et Marseillais. On va remercier tous ceux qui ont travaillé sur cette émission. Faisal Berkani, Lucas Busutil et Laurence Madja qui étaient à la technique aujourd'hui.